Est-ce qu'il y a des questions tout de suite sur cette intervention? Sinon, on passe à l'intervention de Pierre Piazza et on pourra de toute façon prendre des questions à la fin. Donc je vais passer la parole, s'il n'y a pas de questions, à Pierre Piazza, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, qui est spécialiste de l'histoire et de l'analyse des dispositifs étatiques d'identification des individus, cartes d'identité, fichiers, biométrie. Il a récemment publié, dirigé avec Laurent Cretier, un ouvrage qui s'appelle « Du papier à la biométrie, identifier les individus ». Et il a publié également une histoire nationale de la carte d'identité.
Merci. Donc moi, je prends un petit peu le relais historique, si vous voulez, de Vincent, puisque je vais faire la période qui vient juste après, c'est-à-dire la période qui commence à partir de la fin du XIXe siècle. Et cette période de la fin du XIXe siècle, le dernier tiers du XIXe siècle, marque un véritable tournant en matière d'identification des individus, si vous voulez, un tournant dans la rationalisation des techniques policières, des techniques d'État qui permettent d'identifier les individus, et ces techniques qui prennent le corps pour cible, hein, Vincent l'a dit. Alors, ce processus de rationalisation, de perfectionnement, il s'ancre dans une histoire plus longue, hein, que vient de retracer Vincent et que vous pouvez vous reporter à son ouvrage pour plus de précision. Mais le véritable tournant, donc à la fin du XIXe siècle, c'est le bertillonnage, c'est-à-dire ce que va faire Alphonse Bertillon à la préfecture de police de Paris. Alors le bertillonnage, c'est quoi? Vous avez tous un peu en tête, je pense, des images du bertillonnage, notamment à travers la photographie face profil. Le bertillonnage est surtout fondé sur la mesure de certaines parties du corps, la coudée, le crâne, etc. Le relevé des stigmates inscrits à même la peau, que ce soit des tatouages, mais aussi des grains de beauté, etc. Le perfectionnement, bien sûr, des clichés photographiques, photographies face profil, qui sont réalisées par les fonctionnaires de police, initialement, à la préfecture de police de Paris. Et l'amélioration, Vincent en a parlé, l'amélioration des modes de rédaction du signalement, c'est-à-dire que Alphonse Bertillon invente, une description scientifique, à mettre entre guillemets, du visage, notamment via le portrait parlé, ce qu'on appelle le portrait parlé. Et donc toute cette batterie de techniques, hein, développée par Bertillon initialement pour identifier les récidivistes à la préfecture de police de Paris, eh bien toutes ces techniques vont, si vous voulez, affranchir un peu les forces de l'ordre, les policiers, des hasards de l'empirisme en matière d'identification des personnes. Le bertillonnage, bien sûr, c'est aussi la constitution de fichiers de plus en plus volumineux, parce que Bertillon établit des fiches d'identification à partir de toutes ces techniques, des fiches d'identification qui sont classées dans des fichiers. Et donc dans ces fichiers, on a des informations sur les données corporelles des individus, des informations qui sont de plus en plus nombreuses, et qui vont concerner initialement les délinquants et récidivistes, qu'on veut exclure, c'est la loi de la relégation, qu'on veut exclure du territoire métropolitain. En général, on les envoie mourir en Nouvelle-Calédonie. Mais progressivement, on va voir un élargissement, une diffusion du bertillonnage à des populations de plus en plus larges, les mendiants et vagabonds, les aliénés que l'on retrouve sur la voie publique, les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion, les personnes soupçonnées d'espionnage, les anarchistes, etc. Donc on voit, et il y a même des projets d'embertillonnage, comme on dit, de l'ensemble de la population. Donc on voit un processus d'extension du bertillonnage à des populations de plus en plus diverses et larges. Le début du XXe siècle marque aussi un tournant assez intéressant, c'est l'émergence de savoir et de savoir-faire de plus en plus perfectionnés sur les empreintes digitales, et notamment les systèmes de classification des empreintes digitales, notamment à travers les recherches qui sont menées par Francis Galton ou quelqu'un qu'on connaît un peu moins bien, qui est Juan Vucetich, qui a mis en place des fichiers assez volumineux en Amérique du Sud. Et donc on a la constitution progressivement d'immenses fichiers dactyloscopiques, ce qu'on appelle les fichiers d'empreintes digitales, donc dactyloscopiques, par de plus en plus de services de police à travers le monde. Ces fichiers ont pour objectif, ces fichiers d'empreintes digitales, ils ont pour objectif d'identifier plus sûrement, avec plus de certitude, les délinquants et les criminels, bien sûr, Mais de plus en plus aussi, rapidement, tous les migrants, de même, dans certains cas, l'ensemble de la population, à travers la mise en place d'offices nationaux dactyloscopiques, d'identification dactyloscopique. Alors toutes ces techniques d'identification, de bertillonnage, des empreintes digitales, vont aussi permettre aux forces de l'ordre de rationaliser un peu l'identification par le papier, l'identification à distance dont parlait Vincent, pour pouvoir identifier avec plus de certitude aussi les individus par le papier. Donc on a progressivement sur certains papiers des modes de rédaction du signalement qui sont de moins en moins approximatifs. On s'inspire ici beaucoup de ce qu'a fait Bertillon dans la définition et la mise en place de modes de rédaction du signalement plus scientifique. On introduit bien sûr les empreintes digitales de plus en plus dans les documents d'identité. On normalise les clichés photographiques, les photos sur les papiers. On standardise, on homogénise aussi la forme et le contenu des documents d'identité. On développe d'autres techniques un peu plus sophistiquées, tu y faisais allusion tout à l'heure, d'autres techniques pour empêcher la falsification des documents. Et puis on essaye d'établir un lien de plus en plus rigoureux entre les données qui sont contenues dans ces documents d'identité, qui sont rationalisées, et ces mêmes données qu'on conserve dans des fichiers centralisés, pour pouvoir faire le lien entre les cartes et les fichiers. Alors quand on porte un regard historique ou socio-historique sur cet essor et sur la rationalisation accrue des procédures d'identification, on a un double phénomène. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes, mais il y a un phénomène qui est assez marquant. Et c'est un phénomène que révèle bien l'exemple de la carte nationale d'identité. C'est à la fois cette carte nationale d'identité, un outil qui a pu favoriser à travers le temps ce qu'on peut dire, peut-être de façon un peu jargonneuse, un resserrement des allégeances à l'État-nation, aux valeurs de l'État-nation. Pour le dire autrement, c'est aussi en manipulant ce type d'objet, la carte d'identité, la carte nationale d'identité, qui matérialise une appartenance commune. Hein, si on a tous une carte nationale d'identité et que c'est la même, qu'elle est homogénéisée, standardisée, etc., et bien que les citoyens éprouvent un peu cette idée de nation dans leur fort intérieur. C'est-à-dire que c'est aussi par ce type de dispositif concret qu'on est citoyen. C'est-à-dire que c'est aussi une dimension essentielle de notre propre identité. Donc là, c'est la dimension, si vous voulez, intégratrice, mais il y a aussi une dimension qui n'est pas intégratrice, qui l'est moins, qui renvoie à des formes spécifiques de contrôle policier. C'est-à-dire que les documents de papier ont aussi été utilisés pour stigmatiser certaines catégories particulières de la population. Donc il n'y a pas seulement cet aspect intégrateur de définition, de mise en forme d'une communauté nationale uniforme et homogène. Alors, stigmatiser, contrôler, par exemple, l'instauration du carnet anthropométrique des nomades. Carnet anthropométrique des nomades, à partir de 1912, pour mieux contrôler cette population, pour mieux la tracer, pour mieux la réprimer, pour l'inciter aussi à se sédentariser, parce qu'elle est perçue comme un véritable danger. Ici, c'est encore la mobilité qui fait peur. La position de la mention juive aussi, sur la carte d'identité, sous Vichy, des citoyens, la position sur la carte d'identité des citoyens de confession juive, l'instauration d'une carte nationale d'identité qu'on a tous connue pour certains d'entre nous, c'est-à-dire que cette carte en papier, vous savez, instaurée en 1955, qui a été initialement, on retrouve ça dans les archives policières, mise en place pour mieux surveiller les Français musulmans d'Algérie. Donc vous voyez, il y a toujours cette double dimension. Alors maintenant, comme l'intitulé de mon intervention s'appelle « Du papier à la biométrie », ce qui n'est pas un titre très bien trouvé, puisqu'on a aussi de la biométrie dans les papiers. Qu'en est-il de la biométrie ? La biométrie, est un peu l'héritière, si vous voulez, de ces premières entreprises policières d'identification qui prennent le corps des individus pour cible. La biométrie, elle tend de plus en plus à s'imposer parmi les acteurs publics en charge des questions de sécurité. Elle s'impose de plus en plus, elle s'impose aussi dans le privé, mais elle s'impose parmi ces acteurs publics en charge des questions de sécurité comme une solution qui devient un petit peu incontournable. Schématiquement, la biométrie, c'est quoi ? Pour savoir avec une quasi-certitude qui est qui, eh bien, on transforme certaines caractéristiques soit physiques, soit physiologiques, soit comportementales. Alors, ça peut être les empreintes digitales, ça peut être l'iris, ça peut être l'ADN, ça peut être la reconnaissance faciale. Eh bien, on transforme ces caractéristiques en une empreinte numérique sous la forme d'un gabarit. Et cette empreinte numérique, elle est exploitable informatiquement, c'est-à-dire qu'elle peut être échangée rapidement, elle peut être traitée rapidement, etc. On a surtout deux types de dispositifs qui se développent énormément en matière biométrique ces dernières années. C'est la constitution de bases de données biométriques, bien sûr, des constitutions de bases de données de plus en plus larges, de plus en plus vastes, et l'introduction de données biométriques dans les documents d'identité, dans des puces que contiennent ces documents d'identité, puces qui sont le plus souvent lisibles à distance via les puces RFID. Michel Albert-Ganty reviendra certainement sur cette question. Ces deux types de dispositifs se sont considérablement développés ces dernières années. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, en France, on a par exemple le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales, qui a été institué en 1987. Donc, c'est le premier fichier biométrique commun à la police et à la gendarmerie, qui a commencé à devenir opérationnel en 1994, et il enregistre notamment les empreintes digitales de toutes les personnes qui sont mises en cause dans une procédure pénale pour crime ou délit. Donc on a à peu près dans ce FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, 3 millions d'individus qui sont fichés via ces empreintes. Il y a bien sûr le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui a été créé en 1998. Initialement, c'est un fichier qui était destiné spécifiquement à l'identification des auteurs d'infractions sexuelles. Et puis, depuis une loi de 2003 sur la sécurité intérieure, il est devenu, ce FNAEG, un outil d'identification criminelle généraliste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup maintenant de cas dans lesquels les personnes peuvent faire l'objet d'un tel fichage, notamment si vous fauchez des champs OGM, etc. Donc à peu près 1 million d'empreintes génétiques dans ce fichier actuellement. Alors ça, c'est pour les stricts besoins, si vous voulez, d'identification criminelle, mais bien sûr, les autorités ne recourent pas seulement à la biométrie pour identifier les délinquants criminels, aussi pour identifier les étrangers. On a, dès avril 1997, la loi Debré, qui avait prévu le relevé des empreintes digitales pour tous les étrangers qui, notamment, solliciteraient la délivrance d'un titre de séjour. Et puis, cette initiative a été complétée par la suite, par une loi de novembre 2003, donc loi relative à la maîtrise de l'immigration, qui instaure le relevé et le traitement automatisé des empreintes digitales des demandeurs de visa. À partir de 2005, d'ailleurs, des expérimentations vont être conduites par le ministère de l'Intérieur dans plusieurs consulats. Et le 2 novembre 2007, un décret a été pris par le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale pour généraliser ce dispositif qu'on appelle VisaBio et qui concerne à peu près les 2 millions de personnes à qui on délivre en France annuellement un visa Schengen. Donc l'idée ici, c'est à travers la biométrisation de l'identité de ces étrangers via le visa, eh bien de savoir en cas de contrôle qui ils sont et normalement leur éviter de pouvoir dissimuler leur identité. On a aussi un autre projet, mais cette fois-ci au niveau européen, qui renvoie à cette même question, c'est le projet VIS, Visa Identification System, que l'Union européenne a résolu de mettre en place depuis 2004 et qui devrait être mise en place très prochainement. Alors le VIS, concrètement, ce Visa Identification System, ce sera un des plus grands fichiers biométriques du monde, puisqu'on envisage dans ce fichier de stocker les 10 empreintes digitales de près de 70 millions de personnes. Ces 70 millions de personnes, ce sont tous les étrangers, tous les individus non européens qui seront amenés à pénétrer dans l'Union européenne ou même à transiter seulement par l'Europe. On prendra leurs 10 empreintes digitales. En Europe, il se fait aussi beaucoup de choses actuellement, et depuis quelques années, en matière biométrique. Le fichier Eurodac, notamment, qui est un fichier qui a été institué en 2000 et qui est devenu opérationnel à partir de 2003, à partir du début de l'année 2003. Dans cette base de données Eurodac, qu'est-ce qu'on fait? On collecte à des fins de comparaison les empreintes digitales des immigrants illégaux et de tout étranger de plus de 14 ans qui dépose une demande d'asile. Donc ça permet de comparer les empreintes digitales, essayer de savoir qui est qui. L'Europe a aussi décidé d'introduire, vous voyez que les projets sont nombreux, l'Europe a décidé d'introduire des données biométriques dans le système d'information Schengen. Le système d'information Schengen, c'est un système qui permet l'échange d'informations policières entre services de police en Europe. Et donc c'est un système qui est devenu opérationnel à partir de 1995. On veut mettre en place un système d'information Schengen 2, donc une seconde version dans laquelle il y aura aussi des données biométriques. À cela s'ajoute autre chose, la mise en réseau des bases de données biométriques constituées par les différents États européens, notamment les bases de données d'empreintes digitales et les bases de données ADN qui vont être mises en réseau. Alors ça s'appelle le traité de Prüm qui a été signé en 2005 et qui a été intégré dans le cadre législatif de l'Union européenne à partir de 2008. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, les 27 pays européens vont pouvoir s'échanger en réseau leurs données ADN et d'empreintes digitales. Bien sûr, depuis le 11 septembre, sur la pression des États-Unis, il y a eu d'autres domaines d'application, notamment les États-Unis qui ont mis en place, bien sûr, des programmes de contrôle biométrique des étrangers, des personnes qui provenaient d'États tiers, notamment l'US Visit. Et donc, ça a eu des répercussions sur l'Union européenne. Puisque l'Union européenne, par un règlement du 13 décembre 2004, a instauré le passeport biométrique. Et puis, on a, ces dernières années aussi, une multitude de pays qui ont instauré des cartes nationales d'identité biométrique. Alors, vous avez sans doute entendu parler de ce projet, le fameux projet INES en France, Identité nationale électronique sécurisée, qui a fait l'objet de discussions en 2005 et qui a été provisoirement abandonné du fait de nombreuses réactions d'hostilité qu'il avait suscitées. Mais bon, il va sans doute, un autre projet va sans doute très, très, très bientôt voir le jour. Alors, depuis quelques années, on assiste à quoi ? À un essor considérable de la biométrie, donc cette modalité un peu high-tech, hein, qui est, si vous voulez, un peu érigée au rang de solutions indispensables, impératives en matière de sécurité. Au nom de quoi ? Eh bien, au nom de l'efficacité de la lutte qu'on veut mener, qu'on veut conduire contre des risques, contre des menaces, contre des dangers, qu'on lie principalement à l'intensification de la circulation des individus à travers le monde. Alors, cette extension des dispositifs biométriques, il y en a d'autres, hein, mais notamment dans les aéroports, cette extension des dispositifs biométriques pose plusieurs problèmes, beaucoup de problèmes, mais je vais en aborder quelques-uns. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'oriente vers ce tout biométrique, si vous voulez, alors que ces technologies ne sont pas infaillibles ? Régulièrement, elles sont présentées dans les discours officiels, notamment policiers, mais aussi politiques, comme une solution miracle pour révéler l'identité des individus. Et donc la biométrie est présentée comme une technologie totalement fiable. Alors il y a pas mal d'exemples qui montrent que ce n'est pas le cas. Hein. Il y a le groupe de l'article 29, schématiquement, c'est les CNIL européennes, et en France, le comité consultatif national d'éthique, qui ont montré que pour les passeports biométriques, il y avait des problèmes de transmission des données biométriques, la transmission des données qui sont réalisées à travers la puce, comprise dans ce document, et que, bien sûr, si on arrive à capter vos données, hein, ça pose des problèmes importants en matière de confidentialité. Il y a aussi des erreurs. Les taux d'erreur, soit à l'enregistrement biométrique, soit de fausses acceptations lorsque vous êtes contrôlé, lors de la réalisation de contrôle, eh bien ces taux d'erreur ne sont pas nuls. Et varient en fonction du type d'identifiant biométrique qu'on utilise. Alors, il y a des identifiants biométriques qui sont plus fiables que d'autres, mais même pour les identifiants biométriques les plus fiables, il y a toujours des erreurs, et même souvent importantes. Comme a pu le souligner donc la CNIL européenne, le groupe de l'article 29, la possibilité de retrouver des données d'un individu dans une base biométrique diminue proportionnellement à l'augmentation du nombre de données qu'on met dans cette base. Donc on imagine très bien les dysfonctionnements, les erreurs, etc. que ça peut produire sur des bases de données qui vont contenir des dizaines de millions de données biométriques, notamment le projet VIS qu'on évoquait tout à l'heure. Et il y a toujours le risque de voir une quantité très importante d'individus dont on ne pourra pas vérifier biométriquement l'identité, être stigmatisé du fait de ces limites techniques. Alors, il y a d'autres risques encore plus graves qui peuvent aussi résulter de la croyance en la toute-puissance de cette technologie en matière, par exemple, de preuves identitaires dans le cadre d'investigations policières. Alors, j'ai repris ici un exemple donné par le contrôleur européen des données. Le contrôleur européen des données, c'est une institution qui a été créée à partir des années 2000, justement, parce qu'on voyait bien qu'en Europe, il y avait un échange de plus en plus conséquent, important, au niveau transnational des données concernant les individus. Et donc, on a mis en place cette institution censée réguler un petit peu. Que nous dit le contrôleur européen à la protection des données? Je vous cite un petit exemple. En juin 2004, un avocat de Portland, aux États-Unis, a été emprisonné pendant 2 semaines parce que le FBI avait établi que ses empreintes digitales correspondaient à des empreintes trouvées dans le cadre des attentats de Madrid, sur un sac plastique ayant contenu le détonateur. Il a finalement été établi que la technique de comparaison était défaillante et avait entraîné une erreur d'interprétation. Bon, c'est un cas isolé, mais ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de cas qui montrent que les individus subissent ces dysfonctionnements. Finalement, deuxième problème qui se greffe au premier, c'est est-ce qu'on a suffisamment évalué les risques qui sont susceptibles donc de naître à la suite de ce recours de plus en plus systématique aux identifiants biométriques? Est-ce qu'on a suffisamment évalué les risques avant de s'orienter dans cette voie, c'est-à-dire le tout biométrique? Dans bien des cas, la réponse semble être non. Dans bien des cas, la réponse semble être non. Le contrôleur européen à la protection des données montre que, par exemple, il n'y a eu aucune étude d'impact qui a été menée pour mesurer les avantages ou les inconvénients qui pourraient être occasionnés par le passage du 6 au 6.2, le fameux 6.2 qui contiendra les données biométriques. Pour le Visa Identification System, le VIS, la CNIL européenne, groupe l'article 29, rappelle qu'il n'y a pas de littérature scientifique irréfutable qui montre que la technologie des empreintes digitales soit suffisamment fiable, notamment et en particulier pour les enfants et pour les personnes âgées. Idem pour le passeport biométrique, dont nombre d'aspects n'ont pas fait l'objet d'études exhaustives, d'études d'impact exhaustives, alors que ce passeport biométrique soulève d'importants problèmes, qu'ils soient juridiques, techniques, éthiques, qui renvoient à des enjeux de taille, à des enjeux importants. L'enjeu de la faiblesse de la protection des données, à travers la transmission des données qui est dans la puce que contient ce document, on l'a dit tout à l'heure, les risques d'atteinte à la vie privée, la traçabilité ou le profilage des individus, etc. Est-ce que les arguments avancés par les pouvoirs publics pour justifier la nécessité de ce recours à la biométrie sont convaincants? Ils sont souvent contestables, à mes yeux, ils sont souvent contestables. Et il y a un cas emblématique, c'est le projet INES qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce projet français de carte nationale d'identité biométrique. La façon dont ce projet a été justifié, légitimé par le ministère de l'Intérieur, a souvent manqué de rigueur. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a contribué à laisser planer de sérieux doutes sur les intentions du ministère. Cette carte biométrique high-tech, elle a été présentée comme un remède idéal pour lutter contre le terrorisme, alors qu'il y a beaucoup de spécialistes de l'antiterrorisme eux-mêmes qui ont contesté l'idée selon laquelle on pouvait lutter efficacement contre des terroristes en biométrisant une carte nationale d'identité, parce que les nationaux eux-mêmes peuvent être des terroristes. On a présenté comme un remède à la fraude identitaire et documentaire, alors que le ministère de l'Intérieur n'a pas pu fournir de statistiques précises sur le volume de cette fraude. Donc est-ce que finalement le coût de la biométrie n'est pas supérieur au coût de la fraude, si vous voulez? Il faudrait au moins évaluer la fraude. Et puis on a mis en avant l'idée que maintenant la France était obligée d'instaurer ce type de carte parce qu'on est obligé de respecter les normes élaborées au niveau supranational. Or, si on regarde un peu les règlements de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile, ou bien le règlement européen que j'évoquais tout à l'heure, du 13 décembre 2004 sur le passeport biométrique, eh bien on évoquait nullement les cartes d'identité. Donc, en fait, les États n'étaient pas tenus de biométriser ces cartes d'identité. Alors, est-ce qu'on s'oriente vers le tout biométrique après que ce choix ait fait l'objet de débats transparents, si vous voulez, de débats démocratiques transparents et nombreux? Ici encore, à mes yeux, non. Et certains parlent de déficit démocratique. Par exemple, le contrôleur européen des données a indiqué dans plusieurs de ses rapports que le projet VIS, qui est un projet important, biométrisation de 70 millions de personnes, n'a fait l'objet d'aucun débat large et ouvert au niveau européen. Il a indiqué, Le traité de Prüm, donc la mise en réseau entre États des bases de données ADN et d'empreintes digitales, a initialement été signé par 7 États membres, dont l'Allemagne, la France, donc signé par 7 États membres. Et ensuite, on a demandé à 20 autres pays, aux 20 autres pays de l'Union européenne, de l'accepter en bloc, sans avoir pu participer à son élaboration. De plus, ce traité a été adopté par la voie de ce qu'on appelle l'intergouvernementalité, ce qui, de fait, a exclu le Parlement européen du processus décisionnel. De plus, certains parlements nationaux ont ratifié ce traité sans organiser de débat, comme en Espagne, par exemple. Alors, concernant le passeport biométrique, la CNIL, en 2007, a aussi demandé à ce que, du fait des atteintes éventuelles à la vie privée et aux libertés individuelles, à laquelle pouvait conduire, selon la CNIL, la mise en place du passeport biométrique, eh bien, on organise un véritable débat démocratique dans l'Hexagone, au Parlement. La CNIL n'a pas été entendue sur ce point. Le décret relatif au passeport biométrique qui a été adopté par le ministère de l'Intérieur le 30 avril 2008 n'a pas pris en considération les réserves de la CNIL, réserve qui avait été mise en avant pour dénoncer le caractère un peu potentiellement liberticide de ce type de dispositif. Est-ce que la mise en place des technologies biométriques est conforme aux deux principes importants, principe de proportionnalité et principe de finalité, qu'essayent de faire respecter les autorités de protection des données? Alors, ces principes, ils sont surtout affirmés dans la directive européenne du 24 octobre 1995, qui est relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, etc. Que nous dit cette directive? Les États membres prévoient que les données à caractère personnel, je lis, hein, doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traité ultérieurement de manière incompatible avec ses finalités. Et ces données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Quand on regarde attentivement les différents textes européens et nationaux qui instituent ces dispositifs biométriques, eh bien, on constate que le respect de tels principes, hein, ces principes de proportionnalité et de finalité, pose souvent problème. Concernant le 6.2, donc cette nouvelle version du système d'information Schengen, le contrôleur européen des données a dit que finalement il ne comprenait pas quelles étaient les véritables intentions des autorités européennes, parce que les textes concernant le VIS ne contiennent aucun exposé des motifs. Donc ça, c'est quand même très important. La forme que prend cette version du 6.2, cette nouvelle version du 6, risque aussi de contrevenir au principe de proportionnalité. Pourquoi ? Parce qu'on va permettre à de nouvelles autorités d'accéder aux données du 6.2. Quelles sont ces nouvelles autorités ? Europol, Eurojust et toutes les autorités qui sont compétentes en matière d'asile et les autorités qui sont compétentes pour octroyer le statut de réfugié. Donc ces autorités pourront accéder au 6.2 en vue d'obtenir des informations qui leur seront utiles pour poursuivre leurs propres buts, hein, leurs propres objectifs. Or, ces objectifs ne répondent pas aux mêmes raisons, aux mêmes logiques que celles qui avaient été initialement mises en avant pour justifier la création du système d'information Schengen. En gros, initialement, ce système d'information Schengen, initialement, est conçu comme un instrument de lutte contre la délinquance transfrontière. Or, rapidement, certains disent qu'il pourrait se transformer en instrument d'enquête d'envergure qui sera mobilisé dans des domaines bien plus larges, immigration, criminalité organisée et terrorisme. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans la même chose. Un phénomène identique se dessine à propos du Visa Identification System. Qu'est-ce qu'on a en Europe ? On a la volonté affirmée de rendre cette base biométrique énorme interopérable avec d'autres bases de données qui n'ont pas les mêmes finalités. Eurodac, notamment, la rendre interopérable, c'est-à-dire la mettre éventuellement en réseau, enfin principe d'interopérabilité bien plus compliqué que ça. Donc, la rendre interopérable avec le 6.2 ou encore Eurodac. Et de permettre aussi aux services répressifs, alors que ce dispositif le vise, c'est le premier pilier, le pilier communautaire, et non pas le troisième pilier, d'accéder à ce fichier. Donc se pose la question de la remise en cause de du principe de proportionnalité concernant ce dispositif au regard de l'objectif qui lui était initialement affiché, à savoir mettre pour le vice, mettre en œuvre une politique commune en matière de visa, et là on est dans une logique bien différente, hein, si on permet l'interconnexion du vice avec Eurodac, avec le 6.2, et si on permet aux services répressifs d'accéder au vice. Pareil, le principe de proportionnalité concernant le traité de Prüm apparaît tout aussi problématique. Comment être certain que le fait de mettre en réseau les bases de données ADN et d'empreintes digitales entre les différents États au sein de l'Union européenne sont en adéquation avec l'objectif qui est poursuivi, c'est-à-dire la lutte contre la criminalité transfrontière et le terrorisme? Et comment être certain que ces dispositifs sont absolument nécessaires pour parvenir à ce but, alors qu'on n'a pas du tout évalué ces dispositifs d'échange d'ADN et d'empreintes digitales sur une large échelle, pour le dire? Donc finalement, on met des dispositifs alors qu'ils n'ont pas été évalués pour savoir s'ils seront utiles pour parvenir aux finalités auxquelles ils sont censés servir. Concernant le passeport biométrique, la mise en œuvre du passeport biométrique par certains États, on est aussi un peu dans le même cas de figure. Le règlement de 2004, le règlement européen de 2004, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit de mettre dans la puce de ce document la photographie numérisée de son détenteur et deux empreintes digitales du titulaire du passeport. Le ministère de l'Intérieur français a décidé tout autre chose. Il a décidé d'augmenter ce nombre d'empreintes à 8 empreintes digitales, et de conserver l'ensemble des données biométriques, c'est-à-dire images faciales et ces 8 empreintes digitales du titulaire du passeport, dans une base centralisée, ce qui n'a plus rien à voir, enfin ce qui va bien au-delà, si vous voulez, avec ce que prévoyait ce règlement européen. C'est ce qu'avait pointé la CNIL, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas ici dans une atteinte du principe de proportionnalité aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de constituer une base centrale de tous les détenteurs du passeport, donc finalement une base de population, si tout le monde a le passeport? Est-ce que il est bien légitime de prendre 8 empreintes au lieu de 2? Tout cela au regard de la finalité du dispositif, c'est-à-dire la finalité avancée par le ministère de l'Intérieur, c'est améliorer les procédures d'établissement, de délivrance et de renouvellement du passeport, pour éviter la contrefaçon, la falsification. Pour terminer, la vie privée et les libertés des individus sont-elles bien protégées face à tout ce qu'on vient de voir? Face à l'accroissement de tous ces dispositifs biométriques, tant du point de vue national qu'à l'échelon supranational, notamment au niveau européen, mais il y aurait beaucoup de choses à dire aux États-Unis aussi, le régime de protection des données, on va s'en tenir à celui-là, en Europe, ce régime de protection des données, il apparaît, à mes yeux, extrêmement fragile, en raison de sa grande fragmentation. On a des autorités nationales en charge de la protection des données au sein des 27 pays, des 27 États membres, qui ont chacune ces autorités de protection des données, des caractéristiques organisationnelles propres, différentes, qui n'obéissent pas aux mêmes procédures, qui n'obéissent pas aux mêmes logiques, etc. De plus, l'importance des nouvelles charges qui leur incombent du fait du développement considérable des applications biométriques, l'augmentation de ces nouvelles charges de contrôle qui leur incombent, eh bien, ne s'est pas accompagnée, si vous voulez, d'une augmentation significative de leurs ressources, de leurs moyens. On a créé quelques postes supplémentaires à la CNIL, mais ce n'est pas suffisant à mes yeux. Le cas de la CNIL est d'ailleurs assez intéressant, assez significatif. On a une multiplication des domaines d'intervention de la CNIL qui résulte bien sûr de l'essor de la biométrie, mais qui résulte aussi de l'essor de la RFID, qui résulte de l'essor de toutes les technologies liées à l'identification par géolocalisation. On a l'essor de la vidéosurveillance. On a, vous l'avez bien entendu aussi constaté, l'essor des fichiers tant privés que publics de toutes sortes qui se développent, etc. Et donc tout cela met en lumière de manière assez récurrente l'insuffisance des dotations humaines et budgétaires de la CNIL. De plus, le gouvernement a toujours la possibilité de passer outre ces recommandations. On l'a vu avec le cas du passeport biométrique. La CNIL ne dispose pas de pouvoir de sanction effectif concernant les fichiers de sécurité publique. Pas de pouvoir de sanction. L'action de la CNIL s'inscrit quand même dans un cadre national, la loi de 78 qui a été réformée, mais ce cadre national, à mes yeux, il n'est plus pertinent pour faire face à la question de l'internationalisation de l'échange des données, à caractère personnel. Par exemple, quand vous vous rendrez avec votre passeport biométrique aux États-Unis, ces données vont être captées par les autorités américaines qui pourront ensuite les utiliser comme elles le veulent. Que fera la CNIL face à ça? Que peut faire la CNIL face à ça? Alors, il y a bien sûr l'existence de textes qui visent à protéger spécifiquement les données à caractère personnel et la vie privée, qu'il s'agisse de textes communautaires ou bien de textes qui émanent d'organisations internationales, comme le Conseil de l'Europe ou l'OCDE. Il y a aussi, bien, on a parlé depuis le départ, le G29, donc la CNIL européenne. Il y a le contrôleur européen des données, qui peuvent apparaître comme des facteurs qui favorisent, si vous voulez, une harmonisation des principes qui sont applicables en Europe. Mais il y a les spécialistes de la question, notamment la juriste Sylvia Preuss-Lossinotte, qui viendra vous en parler plus en détail tout à l'heure, je pense, qui dit la chose suivante, dans un article qu'elle a publié dans la revue Culture et Conflits. Si les textes de protection sont nombreux, ils sont souvent peu lisibles, d'autant que les organismes français et européens chargés du contrôle de leur application produisent une multitude d'avis, analyses, commentaires qui n'ajoutent pas à la clarté et dont l'efficacité peut laisser dubitatif. Alors, je ne vais pas développer, puisque c'est certainement une idée sur laquelle elle va revenir tout à l'heure. Le groupe de l'article 29, la CNIL européenne, c'est un organe consultatif sans aucun pouvoir de sanction, et ses avis, ses recommandations ne lient pas juridiquement les instances décisionnaires de l'Union européenne. Donc, finalement, les instances décisionnaires de l'Union européenne peuvent passer outre. De surcroît, le troisième pilier, donc vous savez que le troisième pilier en Europe, c'est tout ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Eh bien, ce troisième pilier n'est couvert par aucun cadre juridique européen efficace, unifié, concernant la protection des données. La directive du 24 octobre 1995, qu'on évoquait tout à l'heure, s'applique uniquement dans le droit communautaire, donc ne concerne pas le troisième pilier. Là, on a une recommandation du Conseil de l'Europe, qui date de 1987, recommandation du Conseil de l'Europe qui vise, je cite, à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police. Cette recommandation du Conseil de l'Europe n'est pas contraignante pour les États membres. Et puis, depuis octobre 2005, on a une proposition de décision cadre au niveau européen qui vise justement à mettre en place un régime de protection des données dans le troisième pilier, c'est-à-dire tout ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, mais cette décision cadre n'a toujours pas été adoptée. Bien, pour terminer, parce que je crois que j'étais un peu trop long, tout cela pour dire que, en quelques années, on a vu la multiplication des applications biométriques, d'actes législatifs qui organisent la collecte, l'échange massif des identités biométrisées, si vous voulez, tant entre les États qu'au niveau supranational, le plus souvent, de plus en plus, à des fins répressives, et dans le même temps, on n'a aucun cadre commun, aucun cadre cohérent, aucun cadre adéquat permettant de garantir un niveau de protection élevé, de protection des données pour les individus. Voilà, je vous remercie. Désolé, j'étais un peu long.